Bonjour à toutes, bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin. Merci, merci Eric pour cette première partie qui nous invite en effet à garder notre confiance, du moins placer notre confiance en notre Dieu. Je vous invite à la prière. Oui, Dieu de bonté, toi, tu es le Tout-Puissant, tu es le grand Dieu. Les temps passent, les hommes passent, mais toi, tu restes le même au-dessus de toutes choses. Ce matin encore, nous nous présentons devant ta majesté pour que toi, sœur, qui nous connaît, qui nous maîtrise, tu puisses nous enseigner, nous parler à travers ta parole, nous éduquer. Oui, nous éclairer dans notre cheminement vers toi. Moi, le premier, je me soumets à ton autorité, Saint-Esprit de Dieu, pour que tu puisses diriger toutes choses. Mes propos, mes pensées, que seulement ce qui édifie ton Église pour ta gloire sorte de ma bouche. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Nous continuons notre série, en effet, dans le livre de Esther, dont vous avez compris la particularité, un rappel, que dans ce livre, le nom de l'Éternel n'y est pas mentionné, bien que sa présence, sa puissance soient présents à tout moment. Dieu va continuellement agir dans les coulisses et manifester sa bienveillance à son peuple juif, exilé sous l'Empire perse. Il est à souligner que Dieu, dans sa fidélité ici, veille sur des Juifs non pratiquants, puisqu'ils avaient préféré de rester en exil. Lorsque les autorités, les autres retournaient à Jérusalem, donc nous sommes 70 ans après la déportation du peuple juif vers Babylone, après 70 ans, Néhémie, Esdras et les autres reçoivent ce rappel que Dieu avait alors dit qu'ils pouvaient retourner dans leur pays à Jérusalem. La première partie est rentrée à Jérusalem sous la direction de Zorobabel dans le livre de Esdras au chapitre 2. Et ici, nous sommes entre le chapitre 6 et 7 du livre d'Esdras, donc ceux qui ont choisi de rester en exil. C'est ce peuple qui nous intéresse. Le premier chapitre de ce livre d'Esther, pour rappel, est marqué par la destitution de la reine Vasti, qui refusa à son mari, le puissant roi Assuérus, de se présenter devant ses invités d'honneur lors d'une réception à la gloire du roi Assuérus. Le deuxième chapitre qu'Éric nous a présenté il y a 15 jours montre combien la main de Dieu agit dans les coulisses. Dans sa souveraineté, Dieu va permettre qu'une jeune fille juive, Esther, gagne un concours réunissant les plus belles jeunes filles vierges du royaume de Perse et devienne la reine pour le remplacer Vasti. La fin de ce chapitre est marquée, chapitre 2, par l'acte de loyauté de Mardoché, l'oncle et père adoptif de la reine Esther, qui mit en échec le plan de deux eunuques qui voulaient tuer le roi Assuérus. L'acte de Mardochée nous rappelle le dernier verset de ce chapitre et fut enregistré par écrit dans les annales en présence du roi. Donc jusqu'ici, nous avons trois personnages, le roi Assuérus, la reine Esther qui vient de remplacer Vasti et un homme courageux, Mardochée, juif comme Esther, qui, si je peux le dire, Dieu a promu dans leur quotidien, parce qu'Esther, juif, est devenue la reine, et Mardochée, son bravoure, est notée dans les annales en présence du roi, bien que jusqu'ici, il n'a pas été remercié de cet acte, mais c'est noté. Je vais inviter Léon, il va nous faire la lecture du chapitre 3 qui nous intéresse ce matin. Merci.
Esther, chapitre 3. Après ces événements, le roi Assuérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Aman, fils d'Amedata, la Gagite. Il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Aman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Mardochée, cependant, ne plia pas le genou et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi lui dirent « Pourquoi enfreins-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils informèrent Aman de son attitude pour voir s'il persisterait dans sa décision. En effet, il leur avait dit qu'il était juif. Aman s'aperçut qu'effectivement, Mardochée ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui. Et il fut rempli de colère. Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardochée seul. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait, et il chercha à exterminer tous les Juifs installés dans tout le royaume d'Assuérus, à savoir le peuple de Mardochée. La 12e année du règne d'Assuérus, le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et chaque mois successivement. Et le sort désigna le 12e mois, c'est-à-dire celui d'Adar. Aman dit alors au roi Assuérus, il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume un peuple unique, bien que dispersé, qui reste bien à part parmi les peuples. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et n'applique pas celles du roi. Le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. Si donc tu le juges bon, qu'on donne par écrit l'ordre de les faire disparaître. Ce sont 300 tonnes d'argent que je remettrai aux fonctionnaires pour le trésor du roi. Le roi retira l'anneau de sa main et le donna à Aman, fils d'Amedata la Gagite, qui était l'adversaire des Juifs, et lui dit « L'argent et ce peuple sont à ta disposition, fais-en ce que tu en voudras. » On convoqua les secrétaires du roi le 13e jour du premier mois et l'on écrivit un message en tout point conforme aux ordres d'Aman et adressé au satrape du roi d'Aman, du roi au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue. Le message fut écrit au nom du roi Assuérus et l'on y apposa l'empreinte du roi. Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire de coursiers dans toutes les provinces du roi. Elles disaient qu'il fallait en un seul jour, le 13e du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, exterminer, massacrer et supprimer tous les Juifs, jeunes et vieux, petits-enfants et femmes, et procéder au pillage de leurs biens. Une copie du document devait être donnée avec force de loi à chaque province et être communiquée à tous les peuples afin qu'ils soient prêts pour ce jour-là. Les coursiers partirent sans tarder sur ordre du roi. L'édit fut aussi proclamé à Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman s'installaient pour boire, la ville de Suse était plongée dans la consternation.
Merci, Léon. Vous l'avez compris, ce qui se dégage dans ce chapitre, le verset 13, la deuxième partie le dit très bien. Les lettres disaient qu'il fallait en un seul jour, le 13e du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, exterminer, massacrer et supprimer tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, et procéder au pillage de leurs biens. Un chapitre qui porte sur l'extermination des Juifs, et c'est décrété. Une planification d'un génocide des Juifs, où l'instigateur est l'acteur principal dans ce chapitre, et pour le reste aussi, est un homme, Haman l'Agagite. Ce chapitre montre combien la haine envers le peuple juif ne date pas d'aujourd'hui. Nous connaissons les querelles, du moins Israël avec ses voisins, et comble de choses, surtout l'Iran, qui nous concerne ici aussi, qui est la Perse, l'ancienne Perse, c'est l'Iran d'aujourd'hui. Et ce chapitre nous montre que cette haine envers Israël ne date pas d'aujourd'hui ni des années hitlériennes et l'Holocauste qui a conduit à plus de 6 millions de Juifs. Haman se présente comme le précurseur de l'antisémitisme, un planificateur déterminé à exterminer le peuple juif. Au premier verset de ce chapitre, on nous parlait de sa promotion, la promotion de Haman par le roi. L'expression, ce verset qui dit « après ces choses » nous situe que c'est 5 ans après le règne de Esther et la nomination de l'acte de Mardoché dans les annales de cet acte de bravoure qu'il avait fait. Donc 5 ans après, le roi décide de nommer Haman comme le premier, du moins au titre de premier ministre parmi les gens qui l'entourent. Une promotion dont on ne nous explique pas, la parole ne nous dit pas la raison, mais quand on regarde la suite des événements, cela nous montre clairement l'inspiration de Satan derrière la décision du roi Assuérus de placer Haman au-dessus des autres princes se trouvant autour de lui. Je tiens à signaler également Haman dans le premier verset, Haman l'Agagite, l'ennemi maudit, je l'ai intitulé ici dans mes notes. Qui est Haman l'Agagite? Pourquoi on ajoute l'Agagite derrière le nom de ce monsieur? Ce n'est pas anodin. Haman était un descendant des rois amalécites. Agag était un titre royal. Ce qui nous ramène depuis la sortie d'Égypte pour comprendre d'où vient cette animosité entre Haman et le peuple juif. Donc, il est amalécite. Ce peuple, nous le voyons lorsque les Juifs sortaient d'Égypte en Exode au chapitre 17, verset 16, où les Juifs avaient été attaqués par ce peuple amalécite. C'est les descendants de Amalek, Amalek qui était un petit-fils d'Ésaü. Dieu avait maudit les Amalécites en les livrant à l'extermination totale. Nous le trouvons, ce texte, dans l'Exode au chapitre 17, verset 14, et en Deutéronome, chapitre 25, au verset 17 à 19. Peut-être on peut lire ce chapitre, du moins ce texte, en Deutéronome, chapitre 25, verset 17, pour comprendre ce que Dieu avait dit sur ce peuple. Et pourquoi Dieu les avait livrés à l'extermination totale. Donc je lis la parole de Dieu en Deutéronome au chapitre 25, jugement futur d'Amalek. Verset 27, souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin de votre sortie d'Égypte. La façon dont il est venu à ta rencontre sur ton parcours et sans aucune crainte de Dieu est tombé par derrière sur toi, sur tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura délivré de tous les ennemis qui t'entourent et t'accordera du repos dans le pays qu'il te donne en héritage et en propriété, tu effaceras le souvenir d'Amalek de sous le ciel. Ne l'oublie pas. C'est un ordre. Dieu n'a pas oublié ce peuple. Lorsqu'ils étaient, les Juifs sortaient d'Égypte, ceux qui traînaient derrière fatigués pour des raisons des gens qui quittent l'Égypte pour rentrer dans la terre promise, ils ont été attaqués et massacrés, ceux qui étaient derrière, et Dieu n'a pas oublié ce peuple. Du moins la méchanceté de ce peuple. Donc l'origine du conflit entre Mardoché, lui, et Esu, de Benjaminite et Aman, issu d'Agag, remontait déjà à plus de 1000 ans auparavant. Rappelons-nous aussi l'histoire du roi Saül. Il avait reçu l'ordre de l'Éternel de tuer tous les Amalécites, y compris leur roi Agag. Nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 15, versets 2 et 3. Et Saül ne l'a pas fait. On voit ça au verset 7 et 9 de ce chapitre 15 de 1 Samuel. Ce qui avait provoqué le mécontentement de Dieu qui lui retira son règne pour le donner à David. Une leçon pour nous. Nous pouvons comprendre les conséquences de la désobéissance à la parole de Dieu. Lui, le juste qui voit plus loin, quand il nous donne un ordre, on devrait y soumettre. L'exécution de son commandement est pour notre protection. Aman fait partie de ceux, des rescapés, des Amalécites à l'époque du roi de Agag. Rappelons-nous que c'est Samuel, le prophète Samuel, qui avait finalement mis le roi Agag en pièces. Lorsque j'ai lu ce message, je me disais, quelle violence. Mais en revisitant le livre d'Esther, en réétudiant, j'ai compris pourquoi Samuel n'a pas hésité, lui, à couper le roi Agag en pièces. Parce qu'il savait ce que l'Éternel avait dit par rapport à ses ennemis, les Amalécites. Donc, Aman savait très bien cette animosité qui existait, du moins l'histoire de son peuple et ce qu'ils avaient subi dans le passé, à l'époque de son ancêtre, le roi Agag. On comprend l'origine de sa haine. Ça ne datait pas de cette époque de Esther, de la reine Esther. C'est une haine qui remonte dans le temps. Le verset 2 à 5 de notre texte que nous avons lu nous montre le refus de Mardoché de se prosterner devant Aman, qu'il considère comme un simple homme, bien que le roi Assuérus l'a élevé dans ses fonctions. Mais le verset 4 a attiré mon attention, comme il le lui répétait chaque jour, les serviteurs du roi, qu'ils ne les écoutaient pas. Ici, c'est Aman, c'est Mardoché. Ils informèrent Aman de son attitude pour voir s'il persisterait dans sa décision. En effet, il leur avait dit qu'il était juif. pour nous dire que Mardochée n'a pas caché ce qu'il était, pour les signaler que lui, en tant que juif, il ne peut pas se prosterner devant un simple homme. En dépit d'une longue période entre la mort d'Agag et le règne d'Esther, ni Aman, l'Agagite, ni Mardochée, le Benjamite, n'avaient oublié le conflit qui opposa les deux peuples, cette animosité qui ne s'est jamais éteinte au fond de leur cœur, était toujours là et alimentait leurs relations. Le refus de Mardochée de s'incliner devant un simple homme, Aman, et encore plus un Amalécite. De même, l'envie de Aman d'éliminer les Juifs. Mardochée se souvenait qu'Israël avait reçu un commandement de Dieu de ne pas oublier d'effacer la mémoire d'Amalek de sous les cieux. On a lu ce texte. Au verset 6, nous retrouvons ce que j'ai nommé ici comme un produit d'un cœur humain non régénéré, la haine d'autrui. La mesure de punition de Aman face au manque de respect de Mardochée à sa personne confirme ce que dit la parole de Dieu en Jérémie au chapitre 17, verset 9. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Juste parce qu'on ne sait pas incliné devant lui, Aman, blessé dans son orgueil, rempli de son ego, il lui paraît méprisable de tuer seulement Mardochée. Il doit faire quelque chose de grandiose, de remarquable pour lui, quelque chose qui parle aux autres, quelque chose qui montre sa puissance. Il décide, à cause d'une seule personne, de détruire tous les Juifs qui vivaient dans le royaume, ce qu'il appelait le peuple de Mardochée. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il savait très bien que c'était les Juifs, le peuple de Dieu. Il était au courant. Sa haine est démesurée. Il faut exterminer, massacrer, supprimer tous les Juifs, jeunes et vieux, petits et enfants, et procéder au pillage de leurs biens. Le verset 11, nous l'avons lu. Nous avons en face de nous un homme puissant qui est animé par l'esprit du mal. Il va habilement flatter le roi Assuérus. Au verset 9, si le roi le trouve bon, il va utiliser tous les mécanismes, le mensonge. Il lui présente les Juifs comme un peuple qui ne respecte pas ses lois et donc susceptible aux troubles à l'ordre public. Ce qu'on ne nous raconte pas que c'était le cas. Et regardez bien qu'il dit un peuple dans ce qu'il présente. Il y a la cacheterie, il ne dit même pas que c'est un peuple juif, il dit juste un peuple. Il tire la conclusion à Aman, sa conclusion, il ne convient pas au roi de laisser faire ces choses, il faut les faire disparaître tous les juifs du royaume. Et comme si cela ne suffisait pas, pour renforcer son idée de méchanceté, Aman va proposer au roi Assuérus, qui était en guerre à cette époque contre les Grecs, il va lui proposer d'apporter 300 tonnes d'argent dans le trésor du roi. On estime que ces 300 tonnes équivaut à 70%. Des recettes annuelles dans les caisses d'État, dans les caisses du roi. juste pour renforcer son idée d'exterminer son peuple. Le roi Assuérus n'a pas le temps de réfléchir. Lui aussi semble avoir été intéressé par cette proposition alléchante d'écraser toute tentative de rébellion contre son autorité. Alors, il donne son accord. Le roi retira l'anneau de sa main et le donna à Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, qui était l'adversaire des Juifs. Aman, l'Agagite, a maintenant les pleins pouvoirs pour exécuter son plan de génocide contre le peuple juif. C'est un terrible rebondissement, n'est-ce pas, par rapport au chapitre 1er, au chapitre 2. Ici, nous voyons l'ennemi du peuple juif qui reçoit les pleins pouvoirs pour les exterminer. Et au chapitre 2, on avait terminé par une reine d'origine juive dont on voit combien Dieu a été exceptionnel dans sa bonté, que ce soit pour Esther, que ce soit pour Mardochée. De l'autre côté, on voit comment un homme ennemi de son peuple reçoit le plein pouvoir de les exterminer. Je me suis cru en train de regarder un match à ce stade. Satan jubile puisque ses joueurs, Aman et le roi Assuérus, se sont bien inspirés et leur plan semble bien marcher. Satan jubile parce qu'il sait ce que représente le peuple juif pour l'éternel Dieu des armées. Oui, Satan est content. Il sait qu'il s'est attaqué à l'Israël, la descendance d'Abraham, à qui l'Éternel avait dit en Genèse chapitre 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Satan savait qu'il vise la vie de celui qui est appelé fils aîné de l'Éternel. En Exode chapitre 4, verset 22, Dieu dit à Moïse, et tu annonceras au Pharaon, « Voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Je t'ordonne de le laisser partir, de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. » Satan savait que si le projet de Aman est mise en exécution et aboutisse, qu'il va exterminer son peuple juif élu et aimé de Dieu à cause de ses ancêtres, et cet amour et ce choix est irrévocable. C'est la parole de Dieu dans Romains chapitre 11, versets 28 et 29. C'est un peuple élu, aimé de Dieu à cause de ses ancêtres, et c'est irrévocable. Vouloir ou pas, c'est Dieu, dans sa souveraineté, qui a choisi son peuple. Il le disait lui-même, il ne les a pas choisis à cause de leur fidélité ou leur droiture, mais Dieu les a choisis. Dieu les a bénis. Le diable le sait, que c'est son peuple par lequel vient le salut de l'humanité. L'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 22. C'est la parole de Dieu. Dieu les a choisis et le diable savait très bien que si il extermine son peuple, aujourd'hui on ne parlera pas du salut en Jésus-Christ, notre sauveur, qui vient de son peuple juif. Le diable sait qui nous aussi nous sommes aux yeux du Seigneur, du moins nous qui l'appartenons, et nous fait tomber. Nous faire tomber sera toujours un sujet de joie pour lui, mais le Seigneur règne. le Seigneur règnera toujours. Dans ce que j'ai appelé ce match, au verset 7, Dieu nous montre qu'il est toujours présent. Aman, dans son incrédulité, va faire recours à la superstition pour choisir le jour favorable pour exécuter son cruel dessein. En faisant recours au sort, Aman ignore ce que dit la parole de Dieu en Proverbe 16, verset 33. « On jette les sorts dans le pan de la bille, mais c'est de l'Éternel que vient toute décision. » Et on va le voir. Les dés sont jetés et Dieu, dans sa bienveillance, fait que la date soit le 13 jour du 12e mois, au mois d'Adar. Ça veut dire 11 mois plus tard, par rapport à la moment où Aman prend sa décision, Dieu laisse quand même 11 mois nécessaires. Le temps nécessaire pour les joueurs de l'Éternel dans ce match, Esther et Mardoché, pour récupérer et se préparer et continuer le match. Il n'est pas terminé. Dieu est toujours aux commandes. Versets 12 et 14, sous un décret qui avait force de loi et irrévocable, les courriers scellés avec signature du roi sont vite envoyés dans tout le royaume, fixant le jour de massacre de tous les Juifs en un seul jour, le 13e jour du 12e mois. La question qu'on peut se poser, le roi est-il au courant que son épouse, la reine Esther, est une juive aussi qui sera exterminée parmi tant d'autres? Je pense que le passage suivant nous répondra à cette question. Mais en donnant cet accord, je ne crois pas qu'il était sûr qu'en tuant tous les Juifs, en un seul jour, son épouse, la reine, échapperait. Le verset 15 nous montre une ville de Suse qui est plongée dans la consternation. Même la population païenne de cette ville semble avoir été troublée par le caractère exagéré d'une cruauté extrême du racisme du roi Assuérus et d'Aman. La mesure prise par Naaman dépasse l'entendement humain. Même les païens se demandent qu'est-ce que ce peuple a fait pour prendre une telle décision. Conséquence de la haine de l'autre. En concluant, je me posais cette question, est-ce que tant d'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, avons-nous des ennemis? Mais les chants que Eric a choisis nous confirment, oui, que nous aussi, nous ne sommes pas à l'abri. Dernier que nous avons chanté, on disait « Il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant, il me gardera. » Nous sommes le peuple de Dieu, nous aussi, en Christ. Nous sommes les héritiers de Dieu. Donc, le diable nous en veut. Jésus-Christ nous a laissé un message, un avertissement dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 18. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. C'est un appel pour nous à rester vigilants. Je l'entendais dans la prière d'Éric. Une vie qui n'est pas connectée au Seigneur, dans la prière au quotidien, se vit au hasard, sans direction ni protection, exposée à l'ennemi. Restons connectés. Quant au peuple juif, nous sommes appelés à prier pour ce peuple, pour qu'ils reviennent au Seigneur, pour qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur. À la suite du livre d'Esther qui nous concerne, le commentaire biblique de John MacArthur dit qu'il pourrait être comparé à un jeu d'échecs où Dieu et Satan, tous les deux invisibles, déplacent d'authentiques rois, reines et nobles sur l'échiquier. À ce jour, à la fin du chapitre 3, Satan place Aman au pouvoir et semble prononcer « échec ». Je l'ai dit, il jubile, il est dans la joie. Et la question qui s'oppose alors pour la suite, Dieu abandonnera-t-il le match? Qui sera le vrai vainqueur qui prononcera échec et mat? Ne ratez pas la prochaine épisode. Je voulais juste le passage de 1 Samuel au chapitre 12, verset 22. L'Éternel, à cause de son grand nom, n'abandonnera pas son peuple parce que l'Éternel sait plus à faire de vous son peuple. Je vous invite à la prière. Dieu de bonté, nous voulons te dire un grand merci. Merci parce que toi, tu ne changes pas. Oui, tu es toujours le même, le Tout-Puissant. Tu es au-dessus de toutes choses. Nous voulons nous tous exposer nos cœurs auprès de toi pour que toi, le médecin qui nous connaît, tu puisses nous éclairer pour nous éviter d'avoir un cœur comme celui de Aman. Que tu puisses arracher en nous toute amertume, toute racine qui pouvait faire pousser la haine envers l'autrui. Que tu puisses créer en nous cet amour que tu donnes à ceux qui t'appartiennent. Que ton amour domine dans nos choix, dans nos décisions. Que ton amour nous habite au fond de nous-mêmes. Merci, parce que toi, tu auras toujours le dernier mot. Merci, parce que tu t'es choisi un peuple, tu es le Dieu souverain. À toi, la louange et la gloire, au siècle des siècles. Amen.